commencer la conférence par le premier chapitre du prix d'Alaïa, donc le tome 1 de la série Éternité de Magali Segura, qui est juste là, parce que je trouve que ça lance vraiment bien le thème de l'aventure. Le chemin de pierre rose et anthracite s'enfonçait à perte de vue entre les dunes oranges et les buissons d'un vert timide. Les miroitements se raréfiaient et l'air semblait immobile. Aucun vent ne voulait souffler sur les îles en cette fin d'après-midi. Les voyageurs avaient déroulé les chèches qui protégeaient leur visage, mais la jeune femme à la peau hâlée et aux longs cheveux châtains avait négligé d'ôter les amples manteaux grèges qu'ils portaient tous deux. Le regard perdu au loin, elle se laissait seulement bercer par le nouveau silence de l'enfant. Moi, je trouve que là, tout y est, l'explosion des couleurs, l'étrangeté du personnage, les questions aussi que le lecteur se pose sur donc, ces personnages qu'il ne connaît pas. Magali Segura, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du monde d'Alaïa ?
C'est un monde, ambiance mille et une nuits, un monde désertique sur lequel il pleut depuis 9 ans, avec tout un changement de société et de climat. Et sur les personnages aussi ?
Oui, enfin alors les personnages. c'était plutôt sur vraiment le dépaysement, ouais, en fait, voilà.
Comment dire, c'est un lieu qui a été colonisé par les hommes 2000 ans plus tôt et qui était sous le pouvoir de dieux particuliers qui sur le moment n'ont eu rien contre cette colonisation jusqu'à ce qu'il y ait eu un geste sacrilège. Et donc les dieux ont voulu faire payer les hommes en asséchant d'une part la terre, mais surtout en leur offrant des cadeaux indécents tels que la magie. On peut être sorcier si on a un lien de sang, mais si on veut des pouvoirs, il faut donner une qualité, et plus on donne, plus on est puissant. Donc les magiciens en général ne sont pas très très gentils. Voilà.
J'étais un peu surprise en fait par votre adresse au lecteur quand on ouvre le livre. Ça peut paraître cryptique au premier abord. Vous dites à mes grenouilles que j'ai sacrifié à vie pour coucher cette histoire sur le papier. Et puis après, je me suis renseignée et j'ai vu qu'effectivement vos études. Votre vie antérieure, on va dire, à l'écriture, était consacrée aux grenouilles. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Je suis une biologiste et j'ai fait une thèse sur les relations de parenté entre une famille de grenouilles asiatiques. Donc voilà, très 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 loin de ces histoires. Et quand j'ai eu fini ma thèse, pendant laquelle je n'ai pas écrit, puisque je faisais déjà un enfant, en même temps que ma thèse, c'était déjà pas très très intelligent. Donc je me suis astreinte à ne pas écrire pour finir ma thèse, et après j'ai vomi l'histoire que vraiment tout le premier tome, parce que ça m'avait habité trop trop longtemps, et je me suis rendu compte que il fallait faire un choix, et comme de toute manière avec un enfant partir en postdoc aux États-Unis, je le sentais pas. Voilà.
Et en même temps, j'ai lu sur votre blog que pour étudier les grenouilles arboricoles, vous étiez partie en voyage. En Asie, je crois.
Voilà. En Thaïlande, au Sri Lanka et au sud de l'Inde.
Et donc, du coup, elles vous ont quand même un peu accompagnées, finalement, non ? Enfin, dans l'imaginaire, non ?
C'est une expérience inoubliable. Je suis très, très heureuse de l'avoir fait. Et ces voyages étaient fabuleux. Et un jour, je ferai dans le monde asiatique, parce que bon, là, j'ai pas pu mettre beaucoup de grenouilles parce que ça. Comment dire, un monde salé et sec, non, il n'y a pas de grenouilles. Donc il y en a juste une dans un marais et c'est tout, j'ai pas été plus loin.
Merci, donc on y reviendra bien évidemment. Anne Rossi, qui est juste à côté de moi, on parle aussi d'évasion, j'imagine, avec votre texte, La mer aux esprits, premier tome de la série Barthélémy Styx. Au lieu d'un désert de sel, là on a une aventure maritime.
Oui.
Vous pouvez nous en parler ?
Alors, il s'agit de l'histoire d'un héros qui refuse son destin, puisqu'il est originaire de la bourgeoisie nantaise, et lui, il ne se voit pas du tout passer le reste de sa vie derrière un bureau comme son père, à diriger en plus des entreprises esclavagistes. Et donc, lui, il rêve de partir à l'aventure, justement. Et c'est donc, il se passe au début du roman un incident qui va lui donner l'occasion de s'enfuir, et même l'obligation. Et à partir de là, il fuit droit devant lui, sans vraiment savoir où il va aller. Et de rencontres fortuites, en choix pas toujours très réfléchis, il va se trouver embarqué dans une aventure dont il n'avait absolument aucune idée à la base, et découvrir qui il est vraiment.
Combien de tomes est-ce que vous prévoyez pour cette aventure ?
Deux tomes.
Il s'appelle Barthélémy Styx, votre héros. Est-ce que vous l'avez nommé d'après le fleuve des enfers ou pas ?
Tout à fait. Alors, il ne s'appelait pas du tout comme ça à la base. Mais mon éditeur trouvait que le nom que j'avais choisi ne faisait pas assez aventureux. Donc, il m'a proposé un nom qui sonnait mieux selon lui. Voilà. Et Styx, je trouvais que ça faisait pas forcément super crédible pour un héros issu donc de la bourgeoisie nantaise. Donc en fait, son vrai nom c'est Charon. Et au moment où il va s'enfuir et ne pas vouloir se faire rattraper, il va se prendre un pseudonyme et donc par association d'idées, comme il a fait un peu de latin, etc. Styx, Charon, voilà.
Adrien Thomas. On s'était vu donc il y a un an ici à une conférence à Épinal. Vous nous aviez expliqué comment plus jeune vous aviez été chasseur de tortues et éleveur d'anémones. Oui, je sais, j'aimais beaucoup cette donc je le recycle. Le merveilleux a toujours fait partie de votre vie apparemment. Alors pourquoi écrire en plus de la fantaisie ?
Parce que j'en ai jamais assez. J'écris de la fantaisie parce que j'ai ça dans la tête, parce que le monde autour me paraît des fois pas suffisamment intéressant, pas suffisamment digne d'intérêt, j'ai pas forcément envie d'y vivre tout le temps, et du coup me plonger dans d'autres univers, ça me permet de m'évader, et l'écrire ça me permet de garder une trace de mes voyages. Donc, mais oui, j'ai une vie qui semble sur le papier un peu palpitante, parce que quand on parle d'anémone, de tortue, tout le monde imagine des trucs super bizarres. Je parle d'anémone, on imagine tout de suite Cthulhu qui me chope avec des tentacules. Pas du tout. Voilà, j'ai fait de la science aussi, comme Magali. J'ai élevé des anémones pour étudier leur comportement en cas d'ensablement. J'ai chassé des tortues pour étudier leur comportement en cas de pluie, en cas de déplacement pendant l'été. J'ai fabriqué des pièges pour capturer des tortues exotiques dans les eaux françaises. Et à l'heure actuelle, j'ai rajouté encore une ligne, encore rigolote, je travaille avec des crocodiles.
Des crocodiles.
Voilà. Je suis responsable scientifique dans un zoo qui montre essentiellement des crocodiles et aussi des tortues, des oiseaux, des serpents, etc. Donc essentiellement des reptiles. Voilà. Donc j'ai plein de trucs marrants autour de moi, mais ça ne me suffit pas. Et la fantaisie, ça complète ça.
Et alors, quelles aventures littéraires vous avez vécues alors depuis un an, puisque vous êtes sur un nouveau livre apparemment. Voilà. Parlez-nous-en peut-être.
Alors, j'ai complètement changé d'univers pour ce bouquin. J'ai fait une infidélité à la fantasy, en fait. Après avoir écrit deux tomes de ma série sur les six royaumes, j'ai eu envie d'écrire un bouquin plus court, plus aventureux, avec un rythme un peu plus rapide, qui est basé sur l'Amérique à la fin du 19e siècle, où une bande de chasseurs de loups-garous, qui s'appelle les Veneurs, partent à la poursuite de la reine des loups-garous au fin fond de l'Amérique du Nord. Voilà, donc ça tire dans tous les sens, c'est vrai qu'il y a des cavalcades, il y a de l'aventure, voilà. Donc j'ai voulu changer un peu de registre pour voir.
On y reviendra hein, de toute façon. Donc notre entre guillemets dernière auteur, mais invitée américaine, pardon. Donc Chloé Neal, nous sommes ravis de vous recevoir aux Imaginales. Alors vous nous entraînez au cœur de Chicago dans vos romans, à la rencontre de vampires, de fées, de nymphes déchaînées dans votre première série Les Vampires de Chicago, et de démons, vampires et autres magiciens dans votre seconde série Dark Elight. Alors en fait, au départ, quand j'ai vu que vous étiez invité dans cette conférence, je me suis dit, bon, alors Chicago, c'est moins exotique, peut-être, que les autres auteurs. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vos personnages voyagent à l'intérieur d'un paysage qu'elles connaissent déjà, mais qu'elles redécouvrent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, de cette redécouverte ?
Sure. Are we on? Yes. Merci. My heroine Merritt is a graduate student in Chicago and discovers one night when she's bitten and made a vampire that there is an entire world that exists in Chicago. To some degree, the books are about her discovering herself and her strengths, but also that entire world of supernatural creatures.
Alors mon personnage principal, c'est Merritt, et Merritt, une nuit, elle devient vampire, elle est attaquée par des vampires, et elle devient vampire. Et donc, bien sûr, toute la série tourne autour de sa découverte de ses nouveaux pouvoirs, sa découverte d'elle-même, mais aussi de ce Chicago qu'elle ne connaissait pas. Donc, effectivement, il y a une redécouverte.
And she's constantly surprised because I think every time she believes she's figured out what the creatures are, some new creature pops up that she'd never heard about, and occasionally a creature that no one else had ever heard about, or an alliance, or a relationship that changes the way that she understands the world.
Donc elle est toujours étonnée parce qu'elle découvre des nouvelles créatures qu'elle ne savait pas que ces créatures existaient, non? Et elle est toujours étonnée de ces découvertes, et elle découvre également des créatures que personne ne connaissait, personne d'autre n'avait jamais vu avant. Elle découvre des alliances entre les diverses créatures surnaturelles, et elle découvre également des relations que personne ne connaissait.
Et votre seconde héroïne, Lily Parker, elle entre dans une école privée qui cache en fait aussi des secrets. Il y a aussi tout un monde souterrain qu'elle découvre et qu'elle redécouvre en fait aussi.
Also true. And I really hadn't thought about that now, that both of those series have that same thing in common. But I wanted to give Lily really to kind of throw her world, what's the best way to say that? I wanted to really kind of mix up her world and her understanding of the world. Lily is 16, moves from New York to Chicago, or is sent there by her parents, and discovers while she's at school that there is a supernatural world that she had no knowledge of until it happens, and again, she's also thrown into it. So I guess I must really enjoy surprising people with supernatural creatures, but I think that's one of the reasons I read paranormal books, because it's fun to be surprised that way.
C'est vrai que je n'avais pas fait le lien personnellement entre ces deux séries. Effectivement, la protagoniste aussi est confrontée à un nouveau monde surnaturel qu'elle ne connaissait pas. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui vivait à New York et qui est envoyée à Chicago par ses parents et qui va dans une école privée où elle découvre toutes sortes de surnaturels dont elle ignorait également l'existence. Donc effectivement, je dois aimer confronter mes personnages au surnaturel et à d'autres des nouvelles formes de vie qu'elle ne connaissait pas. Et donc c'est effectivement un point commun entre les deux séries.
J'ai regardé l'étymologie du mot aventure et j'ai vu que le sens premier, le plus ancien, c'est ce qui doit arriver à quelqu'un, sa destinée en fait. C'est dans le sens de dire la bonne aventure et c'est de là que ça vient. Et j'avais une question sur à tous les auteurs sur la destinée, la façon dont vos héros ou vos héroïnes s'emparent de leur destin. Quelle est la part un peu de contrainte? Est-ce qu'il y a des prophéties? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils ou elles doivent faire face? Mais voilà, quelle est leur part de liberté? Je ne sais pas qui veut répondre.
I think it's really important in the Chicagoland Vampire series that both there's an existing magical system that creates some prophecies and some kind of expected outcomes for the characters, but also it's really important for Merritt that she be able to find her own way and kind of build her own fate. I think she needs to do that as a character in order to continue to grow, but also to grow as Sentinel of Cadogan House, which is her position within her house of vampires, because as her responsibilities grow and her experience as a vampire grows longer, she's expected to take on more tasks. And so I think it's really important that she be able to kind of do the discovering and figuring out what she believes her fate ultimately is.
Alors dans les vampires de Chicago, il y a un système qui est très important, donc un système magique qui est très important, et il y a des prophéties, il y a des décisions qui sont prises d'avance. Mais dans le cas de mon personnage principal, de Merit, elle doit découvrir elle-même son destin. En fait, elle est très indépendante et elle veut découvrir son propre destin. Elle part à la recherche de son propre destin, mais en même temps, elle est sentinelle de la maison Cadogan, donc la maison des vampires où elle habite, et elle est sentinelle de la maison, donc elle a des responsabilités assez importantes, mais en même temps, donc elle doit explorer toutes ses responsabilités, mais en même temps, elle veut elle-même décider de son propre destin. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à décrire, en fait.
Pour ma part, il y a tout un côté que les dieux ont choisi, mais on ne sait pas ce qu'ils ont choisi, donc on ne sait pas quel destin. Et dans mon histoire, j'ai un petit garçon qui est issu de parents, d'une mère sorcière et d'un père guerrier de l'acier qui avait fait une alliance 9 ans plus tôt. Et donc c'est un après-quête. Et juste pour une histoire familiale, lui, il veut connaître son père, point. Il va se découvrir au monde alors que sa mère fait tout pour le cacher en permanence parce qu'il est né d'une union inadmissible. Et qu'il peut devenir le plus grand méchant sur Terre comme être bon, tout dépend ce qu'il donnera aux dieux. Et donc toute la quête, c'est quand il se fait découvrir, ça va être de le tuer, de manipuler ou de le faire disparaître, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et les parents, leur seule chance, c'est d'essayer de le sauver. Mais savent-ils ce qu'il deviendra quand même? Ça, c'est autre chose. Donc, il y a une part de destin, mais possible. Mais cela, dans mon premier bouquin, Laylan, là, il y avait vraiment une prophétie, une destinée. On était dedans, le schéma. Mais celui-là, beaucoup moins.
Alors, dans Barthélemy Styx, justement, au départ, il cherche à échapper à une destinée qui est toute tracée. Donc, il part à l'aventure, etc. Et en cours de route, il va découvrir qu'en fait, il a une autre destinée. Donc, finalement, on n'échappe jamais à ce qui est déjà tracé. Et alors, par contre, ça ne le branche pas du tout, lui, d'être parmi les sauveurs du monde, etc. Il y a beaucoup de risques. Enfin, ça lui plaît pas. Malheureusement, il est un des seuls à pouvoir sauver le monde. Donc, l'objet du tome 1 est de savoir si il va l'accepter ou s'il va fuir ses responsabilités parce qu'il refuse le destin.
Alors moi, ça a toujours été un truc qui m'a déplu dans la fantasy. La destinée, les prophéties, ça a jamais été un truc qui m'a branché. Le jeune élu qui sauve le monde avec une épée magique, c'est un truc qui m'énerve. Donc j'ai plutôt tendance à éviter de parler de prophétie ou voilà. C'est un moteur comme un autre. Moi, j'ai tendance à l'utiliser de manière détournée, c'est-à-dire je considère que de temps en temps les gens sont mis face à des choix difficiles avec 95% de chance de faire ce qu'on leur dit, ce qui correspond plus ou moins à la destinée, ou 5% de chance de pas le faire et du coup de tout mettre par terre. Donc c'est mais c'est quelque chose que j'essaie d'éviter dans les deux premiers bouquins de fantasy, C'est en gros, il y avait des élus, mais ils étaient choisis parce qu'ils avaient des pouvoirs, mais personne n'a donné leur avis. On leur disait pas, il faut que tu sauves le monde, on leur disait, sauve le monde, point. Ils avaient zéro choix. Et dans le roman d'aventure, le moteur, c'est pas une prophétie, c'est les chasseurs, ils vont à la poursuite de la reine des loups-garous, globalement, parce que si c'est pas eux qui le font, personne le fera. C'était à peu près leur motivation première. Voilà, mais c'est vrai que ouais, la partie prophétie, j'aime pas le principe même de prévoir le futur me plaît pas, en fait. Je préfère justement le principe de l'aventure, c'est de pas savoir ce qu'il y a au coin de la rue.
Un deuxième sens du mot aventure, c'est ce qui advient par hasard, par accident. Mais j'ai envie de dire quand même, un écrivain force forcément le hasard, parce que je veux dire, il faut bien que vos personnages se retrouvent au bon moment, au bon endroit. Quelle attitude vous laissez à votre intrigue? Est-ce que vraiment c'est très très resserré, ou est-ce que vous vous laissez vous-même emporter par ce qui peut arriver, par quelque chose de grand, quoi, en fait?
Alors moi, j'ai l'impression de... Bon, quand on est derrière, quand on tire les ficelles, ça semble toujours plus facile. Moi, j'ai l'impression des fois de faire des trucs très, très prévisibles. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand on est derrière les ficelles, qu'on tire les ficelles du haut du castelet, on a l'impression d'avoir toutes les clés en main, mais on oublie souvent que le lecteur les a pas et qu'on doit leur distiller petit à petit. Et même en ayant conscience qu'on les donne petit à petit, le fait d'avoir toute l'histoire dans la tête, on a l'impression d'être évidente. Non, mais ils vont s'en douter, on essaie de cacher encore de plus en plus pour être de plus en plus fourbe. Et après, je me fais insulter par les lecteurs parce que j'ai tué le personnage, ils ne s'attendaient pas du tout. C'était quoi la question ?
Sur le hasard.
Oui, je suis déjà plus branché sur le hasard. Après, il ne faut pas que ça paraisse trop gros. Parce que si, comme par hasard, les 5 armées qui veulent bourriner la tête au méchant, ils se trouvent comme par hasard à la seconde près devant les portes du méchant, sans s'être concerté avant, sans s'être envoyé de message, ah bah tiens, ça tombe bien, dis donc, allons lui défoncer la tête, ça marche pas. Ça semble trop gros, le lecteur dit ouais, d'accord. Et il faut éviter d'arriver à un moment où le lecteur se dit on prend vraiment pour des truffes.
Alors, pour ma part, je pars toujours avec un plan très net de l'histoire. Je sais d'où je pars, je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Sauf qu'en général, à l'arrivée, une fois le roman fini, ça ne s'est pas du tout déroulé comme je l'avais prévu à la base. Donc, écrire, c'est une part d'aventure. Et en cours de narration, il peut arriver qu'il se produise des choses que je n'avais pas prévues au départ. Et finalement, c'est aussi bien.
Moi en général j'ai le début, quelques scènes au milieu et la fin, mais ça concerne principalement mes personnages principaux. Eux, je dirais que je les tiens bien. Maintenant mes personnages secondaires en général ne font que m'étonner. Dans le premier tome de ce livre, j'ai voulu que mon héros ait un ami pour le rendre un peu plus humain, voilà, c'est un copain, super. Et puis en fait dans le tome 3 il prend des proportions, il a failli lui voler la vedette et je ne l'avais pas inventé au début, je ne l'avais pas imaginé. Donc voilà, c'est ça le hasard dans mon histoire.
I start every book with a relatively detailed synopsis of what the book's going to be about, and that's usually 3 or 4 single-spaced pages. But the hope, and I do that primarily so that when I'm writing the mystery, I can make sure that the mystery component of the story makes sense. But as I'm writing it, if I'm lucky, then things occur to me that are surprising and interesting, because I think hopefully those are the things that the reader's going to enjoy the most. Not just does the story move from one element to the other, but they learn something new about a character, or has something unexpected occurred, because that's what's going to keep them turning the page.
Au départ, j'ai habituellement un plan de 3 ou 4 pages à simple interligne, et ça, j'ai mon fil conducteur, j'ai une idée de ce qui va se passer dans le roman, comment ça va se dérouler, comment l'histoire va se dérouler. Puis après, en cours d'écriture, j'ai des nouvelles idées, des imprévus, des surprises, et je trouve que c'est très bien parce que comme ça, le lecteur a également des surprises, mais je suis moi-même parfois étonnée de voir où m'entraînent mes personnages.
Quels ont été vos modèles d'inspiration alors pour ce texte ou même celui d'avant pour Leylan éventuellement?
Alors pour Leylan, quand je l'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas que j'écrivais de la fantasy, je n'en avais jamais lu. Mes références, c'était les contes que pouvait me raconter ma mère quand j'étais petite et beaucoup de films de KPDP que regardait mon père. Depuis, j'ai quand même lu, même si j'ai pas toujours le temps d'avoir une base classique assez solide. Mais je vous dirais que celui-là, pareil, est à l'origine d'une image dans un film de Mille et une nuits, mais alors lequel j'ai jamais su retrouver le titre. Si je l'ai dit, je mets un petit spoiler, alors c'est peut-être un peu dommage, mais d'un méchant qui voulait trouver qui était l'élu et qui regardait dans un miroir et qui à ce moment-là voyait un homme penché sur un enfant et il est convaincu que c'est l'homme, ça ne peut être que l'homme pour aller rapporter son truc et en fait c'est l'enfant et voilà et c'est parti de ça et après tout le reste voilà.
I read a lot of when I first started writing, there wasn't a lot out there, but I read a lot of urban fantasy with heroines like, or from authors like Kim Harrison, Andy or Laurel K. Hamilton, Sherilyn Kenyon, who all wrote about women, oftentimes who had discovered themselves in kind of unusual supernatural circumstances and had to figure out a way kind of to survive in that world. When I ran out of things to read, I decided I wanted to write a heroine who I could relate to in that way. So Merritt, I think, is my having read those characters and jumped off into something of my own making.
Alors moi, je lisais beaucoup de Beatlit, justement, et j'ai lu Kim Harrison ou Laura K. Harron. Et donc moi, je voyais dans ces auteurs des personnages de femmes qui se découvraient, s'épanouissaient. Et donc moi, j'ai eu envie, après avoir lu tous ces romans, j'ai eu envie de parler d'une héroïne, de créer une héroïne à laquelle je pourrais m'identifier peut-être un petit peu plus. Donc c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Merritt et je m'identifie beaucoup plus à elle.
Voilà, donc ben, pour moi, au moins pour le premier tome, il y a beaucoup d'inspiration, des films de pirates, des histoires de pirates comme L'île au trésor, qui d'ailleurs est au programme de cinquième dans la... Les cinquièmes cette année étudient les romans d'aventure, justement, et donc ils étudient entre autres L'île au trésor. Voilà la partie donc de tous les romans d'aventure un peu Stevenson ou Robinson Crusoe, etc. Enfin, la mer, on va dire. Il y a aussi une partie d'inspiration, je pense, des comics de quand j'étais plus jeune, donc avec la partie super pouvoir, les héros qui découvrent brusquement qu'ils ont des capacités au-delà du commun des mortels. Et puis il y avait également les films de KPDP, les Trois Mousquetaires, enfin tout ce qui est la littérature, un peu d'aventure à l'ancienne.
Moi, source d'inspiration, j'ai lu pas mal de livres de science-fiction, de fantasy, Orson Scott Card notamment, David Eddings, David Gemmell, Tolkien évidemment, comme tout le monde. Non, pareil, qu'on n'est pas un vrai auteur, c'est un peu Tolkien. À côté de ça, oui, j'étais pas mal inspiré par Alors quand j'étais petit, je regardais des dessins animés avec des mousquetaires dedans, ça m'a toujours plu. Non, c'est pas Albert le cinquième mousquetaire, non. Bien essayé. Non, c'est un autre. Je crois que c'est un manga. Voilà, j'aimais bien. J'ai toujours aimé, d'un point de vue audiovisuel, tout ce qui était film, dessins animés, de KPDP, d'aventure, de bonnes bastons. Même dans les Disney, il y a quelque chose à trouver dedans. Il y a une manière de raconter l'histoire qui est intéressante aussi. Enfin, et toutes ces inspirations-là, moi, à partir du moment où je sortais d'une histoire et je disais « Ouf, ça m'a plu », je pensais qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans. Que ce soit un bouquin de Roald Dahl, que ce soit... un film Disney, que ce soit Pirates des Caraïbes ou Le Seigneur des Anneaux, que ce soit voilà, si ça m'a marqué, c'est qu'il y a quelque chose à récupérer dedans, où on peut s'inspirer de ça. Ouais.
Et quel est le déclencheur alors pour Notre-Dame-des-Loups, parce que c'est vraiment très très différent quand même de la fantasy.
Alors c'est assez particulier parce que c'est une sorte de mélange des genres entre les westerns et les films d'horreur, qui sont deux genres que je n'apprécie pas du tout. C'est d'une logique fracassante. En fait, c'est l'esthétique des personnages, l'esthétique qui tourne autour des cow-boys, la partie poussiéreuse, silencieuse, la partie exploration, l'aventure, etc., qui me plaît, même si techniquement je suis pas vraiment un grand fan des armes à feu, loin de là, mais n'empêche que l'esthétique qui tourne autour me plaît bien. Les loups-garous, ça a toujours été la créature mythologique qui m'a le plus intéressé. Il y a des pseudo loup-garou dans mes deux premiers livres, là il y en a encore, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien le fait d'imaginer qu'un mix entre humains et animaux, et notamment le loup, c'est une idée qui m'a toujours beaucoup plu, voir comment concilier l'esprit humain, l'instinct animal, et du coup c'était tout un ensemble d'idées d'esthétique que j'avais en tête, que j'avais envie de mixer pour voir ce que ça donnait, et objectivement c'était juste, tiens, si je faisais un truc où il y avait des cow-boys et des loups-garous. Et la première fois que j'ai dit ça aux gens autour de moi, ils m'ont regardé avec des yeux, genre, mais quoi ? Ils ont cru que j'avais bu ou que voilà. Et au final, j'ai dit, mon fils, je le fais. Et je l'ai fait. Et voilà, et en espérant que ça plaise aux gens. Mais, voilà.
Je me suis demandé si le concept d'aventure, en fait, était un concept absolu ou relatif pour les lecteurs. Par exemple, si on cite le début du résumé de votre texte, 1868, aux confins de l'Amérique, les veneurs, une petite troupe d'hommes et de femmes sans foi ni loi, aux munitions forgées d'argent, l'âme froide comme l'acier, parcourent les immensités de l'Ouest sauvage. Je me suis vraiment demandé si pour un lecteur français ou américain, l'appréhension de ce résumé serait différente ou pas en termes d'aventure, en fait.
Alors, il faudra demander à Curie, je pense, pour la comparaison. Moi, ce résumé me plaît justement parce qu'il a un côté à l'ancienne, un côté pulp, un vieux roman de gare, un peu populaire, mais qui s'assume complètement comme un roman populaire. C'est ce que j'avais envie de faire. Et donner envie de donner directement le contexte, les personnages, montrer ce qu'ils faisaient, leur but. Et en gros, plus ou moins, vous avez les clés en main, voilà, ce qui va se passer, voilà avec quoi vous allez jouer, voilà ce que vous allez lire. Quelque chose qui me plaît bien, et je pense que le public français, de ce que j'ai entendu, ça a l'air de fonctionner. Enfin, apparemment, ça a l'air de leur plaire, le résumé au moins. Les livres aussi, je précise. Pour le public américain, il faudra attendre une traduction. J'avoue, j'ai pas d'infos dessus.
On va demander à Chloé Neal ce qu'elle en pense.
I think it would work very well.
Je pense que ça marcherait très fort aux États-Unis.
Americans love cowboys and werewolves and manga and adventure films and all of those things. So if you put them together, I'm sure it will sell very well.
Les Américains adorent tout ce qui est histoire de cowboy, western et les loups-garous et les mangas et les romans d'aventure. Donc je pense que ça marcherait très fort aux États-Unis.
Le dernier sens que j'ai trouvé de l'aventure, c'est une entreprise hasardeuse et extraordinaire. Donc il y a un côté bigger than life, comme disent les Américains, plus grand que la vie. Comment vous arrêtez en même temps le bigger? Parce qu'il faut, il faut entraîner, mais il ne faut pas non plus que ça soit complètement délirant, quoi. Quelles limites vous posez à vos propres aventures, enfin aux aventures de vos héros, en fait?
Je disais, moi j'ai une formation assez scientifique, donc le principe c'est que ce soit crédible et explicable en respectant un minimum les lois qu'on a établies avant, en fait. C'est-à-dire que si on part du principe que les loups-garous existent, il faut qu'on sache d'où ils viennent, comment ils peuvent être battus, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se nourrissent, comment ils se comportent. Il faut qu'il y ait tout avec, et il faut garder ces éléments-là en continu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'un coup qu'en plein milieu du bouquin, non, en fait les loups-garous c'est des végétariens, vous ne le saviez pas. C'est pas crédible, ça passera pas. Il faut avoir toutes les lois qui concernent le livre. Moi, je suis assez chaotique quand j'écris, mais il faut que je respecte les lois que j'ai moi-même fixées. Sinon, ça peut partir dans tous les sens. C'est absolument plus lisible. Donc, faut vraiment. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, c'est vraiment.
Alors moi, ça me rappelle ma plus jeune fille qui, quand elle s'amuse avec ses frères et sœurs, nous fait. Moi, je serai une magicienne et j'aurai tous les pouvoirs du monde. Et alors là, on lui explique que si elle a tous les pouvoirs du monde, l'histoire s'arrête très vite parce que il y a plus de limites, il y a plus de compétition et donc il y a plus aucun intérêt finalement. Donc pour que l'histoire conserve un quelconque intérêt, il faut que le héros ait des difficultés à accomplir son but. Et donc s'il a des difficultés, c'est qu'il n'est pas tout puissant, soit que les limitations viennent des lois de la magie qu'il utilise, soit que ça vient de lui-même, de sa personnalité, et qui se met lui-même des barrières à ce qu'il veut ou peut faire.
Je ne sais pas si c'est le côté scientifique qui fait ça, mais moi aussi, il faut que ça soit crédible et totalement vraisemblable. À partir du moment où j'ai installé mes lois, tac, c'est comme ça. Ça ne change pas. Ok. Ça, c'est différent de notre monde. Et ensuite, tout le reste. Quand j'ai créé mon monde, je suis allée jusqu'à créer la biologie de toutes mes espèces. Je connais toutes les interactions, les comportements, tout. Et j'avais négligé certains détails, mais après mon mari m'a dit « Bon, et combien ils sont en ville? Et comment ils évacuent les déchets? Il pleut depuis 9 ans dedans, mais comment ils font pour évacuer la pluie ?» Et donc ça m'a fait chercher aussi tous ces petits détails partout. Et donc il y a vraiment un côté très 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 carré, même si le côté délire de la magie est au centre.
I think it's difficult writing about a city that currently exists to balance making it familiar to readers who are primarily, especially if they're in the United States, they have some knowledge of the city, but also trying to surprise them with new things. So what I try to do, as Adrian mentioned and Magali mentioned, is to try to build rules and stay consistent within those rules in the world, because it's readers will suspend disbelief to a certain extent. They can believe there's vampires in Chicago, but if the vampires all of a sudden can go out in the daylight, they will be very unhappy about that.
C'est très difficile quand on parle dans ces romans d'une ville qui existe vraiment, comme Chicago en l'occurrence. Donc il y a bien sûr beaucoup d'Américains qui connaissent la ville ou alors qui y vivent même. Donc il faut essayer d'atteindre cet équilibre entre le vrai Chicago et un Chicago plus surnaturel. Donc l'idée, c'est de surprendre les lecteurs. Mais comme Adrien et Magali l'ont mentionné, moi aussi, je pars du principe qu'il est important d'établir des règles et je maintiens ces règles, je suis ces règles. Et par exemple, le lectorat n'apprécierait pas si je faisais sortir mes vampires en plein jour. Donc les vampires ne sortent pas en plein jour et donc mes vampires ne sortent pas le jour.
En même temps, dans les vampires de Chicago, il y a un certain nombre de choses de la mythologie vampirique qui ne sont pas reprises volontairement. L'ail, elle peut aller dans une église. Il y a une vraie liberté quand même par rapport à un certain cadre, on va dire, vampirique.
I think that's the best part about writing supernatural stories is that you can research the history and the common mythologies, but then pick and choose what you want. I kept vampires not being able to go out in daylight, aspen stakes, but I don't. They can be around garlic, and in fact, Merritt loves pizza with lots of garlic in it. Crosses don't bother them. They can see the reflections in mirrors. So that, I think, is the advantage of kind of being the boss and the author, is that I'm able to select which of those things I want to work in the novels.
Je pense que c'est le côté le plus amusant pour l'auteur, c'est-à-dire de pouvoir faire des choix. Parce que après avoir fait beaucoup de recherches sur le monde des vampires, bon, moi j'ai décidé que mes vampires, ils aimaient l'ail. Par exemple, Merritt, elle aime beaucoup la pizza avec plein d'ail. Et par contre, les pieux de Tremble sont le pire ennemi de mes vampires aussi. Mais les croix ne les gênent pas et ils voient leur reflet dans les miroirs. Donc je me suis amusée avec les codes du monde des vampires, et il y a certains aspects que j'ai appliqués et d'autres non.
Et l'aventure aussi, c'est l'inverse de la vie quotidienne et de la monotonie, on va dire. Du coup, le danger et la violence sont des épices de l'évasion aussi, non?
Absolutely. that's the other great thing about writing paranormal stories is that I don't have to write about someone having to pay their bills on time or making sure that they're still employed and that their car needs a tire changed. We can focus on the really big drama. Is someone going to burn their house down, or is someone trying to kill them, or are they trying to catch a killer? Because when you want to escape with paranormal stories, that to me is the best way to do it, is to really commit to something grand and substantial.
Mais tout à fait, c'est pour ça que le paranormal est formidable, parce qu'on n'est pas obligé de parler des factures à payer ou de ce genre de soucis. Donc nos personnages ont d'autres problèmes à régler, comme par exemple, ils courent après un meurtrier ou un incendiaire. Si on fait du paranormal, c'est parce qu'on veut s'évader, et donc ça permet justement de fuir les soucis du quotidien.
Ou de se dire que finalement la magie, c'est peut-être pas si facile que ça à vivre, puisque ceux qui ont peu donné dans mon monde sont des esclaves, et ceux qui ont beaucoup donné sont des tyrans qui, heureusement, qui sont entourés par des fanatiques, ou sinon ils pourraient être très facilement tués par de l'acier qui échappe à la magie. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà.
Alors mon héros serait probablement en désaccord avec ça, puisque lui, à la base, quand il imagine l'aventure, pour lui, c'est la liberté, c'est pouvoir faire ce qu'il veut, voguer sous le soleil, etc., etc. Et il va découvrir que, ben, en fait, c'est quand même assez dangereux. On peut croiser des gens relativement peu recommandables, et quand on a des super pouvoirs, ça donne aussi du pouvoir aux autres sur vous. Donc,
à son corps défendant, il va vivre une aventure qui va l'entraîner dans des dangers qu'il ne désire pas du tout, en fait, mais qu'il va devoir affronter pour éviter un danger plus grand encore.
Alors moi, mes cow-boys, ils affrontent le danger parce qu'ils l'ont décidé, donc ils sont parfaitement conscients du danger qu'il y a. Ils ont des règles très précises à respecter, ils ne doivent absolument pas entrer en contact avec les loups-garous. S'ils se font mordre, s'ils prennent de la salive ou du sang de loup-garou dessus, ils se font abattre aussi sec. Il y a des règles extrêmement strictes à suivre qui sont là parce que sinon ils ne survivent pas, ils n'arriveront pas à mener à bien leur mission, qui est très importante, plus importante même que le danger. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif qui dépasse le danger affronté en général. C'est comme ça que je vois l'aventure, c'est que si le danger est énorme et que le bénéfice est minime, ils vont pas s'embêter, ils vont rester chez eux et ils auront bien raison. À partir du moment où l'objectif devient important, alors ça peut être le travail d'un personnage qui révèle l'objectif au personnage principal, parce que généralement le personnage principal n'a soit pas conscience, soit veut pas le savoir, soit je pense immédiatement à Frodon dans sa comté qui fait pousser ses potirons, il est bien content, il n'a rien à taper de ce qui se passe chez les grands à 200 km de là, il n'a rien à taper. Et puis il finit par comprendre, parce qu'on lui finit par lui faire entrer dans le crâne, que s'il détruit pas son bijou là, ça va pas être drôle pour lui et ses potirons, il va avoir du mal à les faire pousser. C'est, voilà, l'aventure part d'un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'aventure.
Et en même temps, est-ce que aussi quand on crée un roman d'aventure, le sel aussi de l'histoire, est-ce que c'est pas le méchant quand même aussi de...
Alors le méchant, pour moi, c'est l'exemple typique de Batman. Qui est une série pour moi réussie, c'est que les méchants sont beaucoup plus charismatiques et beaucoup plus intéressants que le héros. Donc si le méchant est charismatique, s'il a un minimum la classe, s'il a vraiment des plans derrière, il ne peut pas juste détruire le monde bêtement comme un blob quelconque, pour moi on tient quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que le méchant ait du charisme, il ait une bonne raison d'agir, et il faut que le héros ait une bonne raison d'aller lui mettre une beigne, parce que le méchant est au centre de l'aventure. Sans méchant, sans vrai danger à affronter, ça peut être l'objectif et le danger à la fois. Ça peut être une personne ou un groupe de personnes ou une créature quelconque qu'il faut abattre avant qu'elle fasse les pires trucs.
Alors, chez moi, il n'y a pas vraiment de méchants, justement. Enfin, plus exactement, il y a un peuple qui a certaines pratiques qui mettent le monde en danger, mais eux-mêmes ne se considèrent pas comme des méchants. Ils considèrent que c'est bien ce qu'ils font et qu'ils ont raison de le faire pour se protéger. Donc, le but des héros, en l'occurrence, va être d'aller leur expliquer que non, franchement, c'est pas une bonne idée, qu'ils feraient bien de changer leurs pratiques. Mais il n'y a pas de méchant charismatique ou de... De leur point de vue, ils ont tout à fait raison de faire ce qu'ils font.
Moi, j'ai des petits méchants, des moyens méchants et un gros méchant. Puisqu'en fait, dans mon premier roman, j'avais un clan de gentils, un clan de méchants. Et on m'avait fait le reproche sur le trop de prévisibilité. Donc là, je me suis dit, bon, il faut au moins 3 clans. Et puis je me suis un peu perdue, j'en ai 6. Donc j'ai des c'est couplé le plus gros méchant, oui, au départ il est très très mystérieux et puis après il a du charisme dans sa manière d'être, mais voilà, c'est il y a plusieurs doses. En quoi il est méchant? Comme j'ai dit, on donne une qualité pour être puissant, et il a donné son sens moral. Donc pour moi, il avait toute puissance, c'était un psychopathe à la base, donc je pouvais vraiment lui faire absolument n'importe quoi. J'ai même dû me dire, mince, je vais peut-être un peu loin. Donc j'ai évité la pédophilie, la zoophilie, le cannibalisme m'a semblé le moindre des maux.
I think it's really important, especially when you're writing fantasy where you have to suspend belief anyways, to have a character that's not only bad, but bad in some interesting way. It's very easy to write a character who's just evil, but it's not very interesting to write a character who's just evil. You need either maybe they believe they're completely in the right, or maybe they have a mental or some other disorder, or maybe their goal is just completely unknowable to the heroine. But you, it's more interesting to read about bad guys or bad girls who have layers and complexity than, well, they're just bad, because it's not very exciting when you beat someone who's just bad. It's more exciting when you're fighting them in an ongoing battle.
Alors en fantasy, bien sûr, on n'est pas dans un monde réel, et moi je trouve que la description des méchants qu'on fait est très, très importante, les méchants qu'on présente. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile de présenter un méchant qui soit entièrement méchant et un pur méchant. Mais finalement, je pense qu'il est plus intéressant de décrire un petit peu, d'écrire autre chose, c'est-à-dire que le méchant est méchant pour telle ou telle raison, ou alors le méchant est méchant parce qu'il a une maladie psychologique grave. Et je pense que ça rend les choses plus intéressantes que de simplement dire il est méchant parce qu'il est méchant.
Merci. Est-ce que vous avez des projets d'écriture, des projets de texte, hein? Est-ce que ce sont des projets d'aventure encore ou pas?
Pour ma part, oui, mais c'est plutôt pour les adultes. Donc j'ai un monde de fantasy que j'ai créé pour les adultes et j'en suis actuellement à la saison 3, puisque c'est publié en numérique et donc c'est au format feuilleton. Donc le premier tome, c'est Passeur d'ombre. Voilà, donc c'est un monde où le soleil n'existe pas. Voilà, et donc les hommes vivent réfugiés dans des enclaves où ils créent de la lumière. Et à l'extérieur, bon, c'est un peu la zone, hein, c'est là où ils ont relégué tous les surnaturels. Et bon, c'est pas très bon pour la santé de s'y aventurer, il n'y en a pas beaucoup qui osent voyager dans ce monde-là. Et donc il peut s'y passer beaucoup de choses.
Moi, en projet, j'ai d'autres idées en tête. Là, pour l'instant, vu que je viens juste de finir celui-là et qu'il m'a demandé pas mal de, mine de rien, pas mal de, malgré qu'il soit plus petit que les autres, il m'a demandé pas mal de travail et d'énergie. Donc, du coup, là, je suis en phase de bidouillage. Donc, je teste des trucs à droite, à gauche. J'ai 5 pages par-ci, 10 pages par-là. Et le jour où j'aurai envie, j'en poursuivrai un et je continuerai. Mais pour l'instant, rien de précis à annoncer. Mais oui, il y aura de l'aventure parce que sinon, c'est pas drôle.
Je suis en train de finir un roman jeunesse, donc moi je passe, qui sera de la fantasy. Et ensuite, par contre, je pars dans le roman d'aventure, plutôt piraterie. Donc voilà.
I am currently writing the 11th of the Chicagoland Vampires novels. There will be 13 in the series. And I have a new series that will begin in summer 2015. I haven't started writing yet, which is about another urban fantasy series set in New Orleans, in which, kind of in the aftermath of a supernatural war, the supernaturals are interned in a community, and humans believe that kind of the supernatural versus human battle has been settled, but we discovered that it is still very much ongoing.
Alors là, je suis en train de travailler au 11e épisode, enfin le 11e tome de la série des vampires. Il y aura 13 tomes dans la série des vampires. Alors, en 2015, je vais commencer à publier une nouvelle série, l'été 2015. Et ça sera une série dont l'action se déroulera à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est un monde où les surnaturels sont cantonnés dans des réserves et les humains pensent que le problème des surnaturels est réglé. Mais ce n'est pas tout à fait le cas.
Je vous remercie tous. Je vois que l'aventure se porte bien. Et donc, on aura encore beaucoup de textes à lire. Merci à vous.